Radio.
Emergency warning. As always, they appear all of a sudden without any notice or pleasant hello. Instead, the same greeting message even after 30 years. Invade you.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Game Radio, votre podcast hebdomadaire, le podcast de la rédaction. Rédaction, c'est un grand mot, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, je serai tout seul dans cette émission. Mais je vous rassure, c'est temporaire, en tout cas je l'espère. Dès la semaine prochaine, ce podcast accueillera une vraie équipe de rédacteurs. Ça vous changera un peu, vous devez commencer à en avoir un petit peu marre de m'entendre tous les jours. Enfin bon, pour le moment, nous n'avons pas le choix. J'ai été le seul ces derniers temps vraiment disponible et capable de vous proposer une émission quotidienne. En tout cas, sachez que je suis ravi de vous retrouver et de passer quelques minutes en votre compagnie chaque jour, et j'espère que c'est réciproque. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, il est consacré à une nouveauté, Pix & Love, la maison d'édition littéraire spécialisée dans le jeu vidéo et son patrimoine, lance en effet une nouvelle collection d'ouvrages particulièrement intéressant, intitulé Les grands noms du jeu vidéo. Cette collection vient d'être lancée avec un premier livre consacré à Takahashi Meijin. Si ce nom ne vous dit rien, comme moi, avant de découvrir le livre, sachez qu'au Japon, cette figure emblématique du jeu vidéo est une véritable star. Ce livre qui lui est consacré est une autobiographie, l'ouvrage est coloré, soigné, le style est très agréable et on prend un plaisir énorme à découvrir la vie passionnante et atypique de Takahashi, une vie qui est une véritable success story. Takahashi est en gros parti de rien et finalement connu de tous au Japon. Pour nous parler de ce livre et de cette nouvelle collection, j'ai eu le plaisir de m'entretenir ce matin avec Florent Gorge des éditions Pix & Love. Je vous propose tout simplement qu'on écoute cet entretien tout de suite et on se retrouve juste après. Florent, bonjour, bienvenue sur Game Radio.
Salut.
Salut, alors je suis ravi de te recevoir dans cette émission, c'est toujours un vrai plaisir de discuter avec toi, surtout quand il s'agit de parler d'un des ouvrages édités par Pix & Love. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle collection de livres que vous venez de lancer et qui se nomme Les grands noms du jeu vidéo. Alors, avant de parler plus en détail du premier numéro, j'aimerais que tu nous présentes cette nouvelle collection qui vient donc enrichir le catalogue des éditions Pix & Love. Peut-être que tu pourrais simplement nous expliquer ce qui a motivé la création de cette collection, tout simplement.
Bah écoute, déjà tout d'abord, les éditions Pix & Love, depuis un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans, fournit un certain nombre d'ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo et le jeu vidéo de manière plus générale.
Oui, parce que alors je te coupe, vous avez déjà énormément d'autres ouvrages sur des thématiques différentes. Il y a le Pix & Love numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais plus exactement où on en est.
Ça va jusqu'à 12, bientôt 13.
Bientôt 13.
Oui, enfin, je dirais pas jusqu'à dire énormément, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'ouvrages qui sont aujourd'hui de référence et que beaucoup de gens à l'étranger nous envient. Ça, c'est bien. Et donc, paru aux éditions Pix & Love, on a plus de 25 aujourd'hui.
Excuse-moi, je te coupe à nouveau, je rebondis sur ce que tu dis. Ça veut dire que vous seriez prêt à peut-être traduire vos ouvrages dans d'autres langues et à vous attaquer au marché mondial?
Ah, c'est en cours. C'est en cours pour certains ouvrages. Après, ça se fait pas malheureusement sur un claquement de doigts parce qu'il faut mettre en place une distribution, faut mettre en place une diffusion, enfin voilà, puis la traduction, ne serait-ce que ça, demande du temps.
Ça pourrait concerner quel pays? Le Japon, les États-Unis?
Dans un premier temps, on s'attaquera peut-être pas au marché ougandais, tu t'en rends compte, donc je pense qu'on va plutôt s'attaquer au marché anglophone, déjà dans un premier temps, et puis en fonction des retours, pourquoi pas. Après, les législations, tout ça, les questions de droit sont un peu différentes en fonction des pays, donc le Japon, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on s'attaque déjà au marché anglais.
Et des pays européens comme l'Allemagne peut-être aussi, l'Espagne.
Le marché allemand, nous, il nous intéresse parce qu'on a des clients allemands qui certainement aimeraient plutôt nous lire dans la langue de Goethe, mais pour le moment on va se fixer des priorités. On reste une très petite entreprise, donc on n'a pas malheureusement les moyens de traduire en 15-20 langues. Donc après, s'il y a des maisons d'édition qui nous contactent pour des adaptations, on y réfléchira. Mais nous, de nous-mêmes traduire et diffuser, distribuer, on va déjà se contenter de l'anglais. C'est déjà un gros paquet, quoi.
Ok, revenons donc à toutes ces collections dont je parlais. Ouais. Les cahiers du jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, enfin il y en a beaucoup. Là, ouais. encore une nouvelle collection, un petit peu différente, qui, si je résume bien, va faire une sorte de zoom, un focus sur une personnalité emblématique, ouais, dans l'histoire du jeu vidéo.
Bah écoute, nous on est parti du constat suivant, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde connaît Mario, tout le monde connaît Zelda, tout le monde connaît Solid Snake, tout le monde connaît les héros de personnages, enfin les personnages, Lara Croft et compagnie, mais personne ne sait vraiment qui sont les gens derrière ces personnages, derrière ces jeux. Et évidemment, il y a quelques noms qui ressortent aujourd'hui, hein, que ce soit Miyamoto, Kojima ou ce genre de personnes. Mais honnêtement, le grand public ne les connaît pas, et même les gamers connaissent toujours la même poignée de 5-6 personnes, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage. Et on se dit que le jeu vidéo ne sera considéré à sa juste valeur, c'est-à-dire comme un élément culturel à part entière, à partir du moment où on aura mis en avant les auteurs. Puisque le jeu vidéo, finalement, ça reste la finalité, mais la création, le process créatif derrière, personne n'en parle jamais. Personne ne met en avant les réalisateurs, les créateurs, les graphistes, les joueurs, enfin les acteurs du jeu vidéo.
Bah, donc, c'est vrai que dans le jeu vidéo, on s'intéresse souvent beaucoup plus à ce qui se passe dans le jeu qu'à ce qui se passe derrière ou à côté.
Et ce qui est normal.
Et on est dans le virtuel.
C'est quand même de prendre du plaisir. Mais c'est disons le mur qui reste à franchir aux jeux vidéo pour qu'il soit quand même considéré comme un média culturel à part entière et pas juste une sous-culture de loisirs pour rigoler avec des potes. Donc voilà, la mise en avant et la si tu veux le c'est pas forcément une starification parce que c'est pas le but, c'est un peu malsain d'ailleurs la peopleisation, mais c'est quand même une volonté de mettre en avant les gens qui travaillent dans l'ombre que personne ne connaît et qui méritent pourtant que leur travail soit reconnu à leur juste valeur. Donc voilà, les mettre en avant. Ça c'est le but de la collection les grands noms du jeu vidéo qu'on commence à publier dès maintenant.
D'accord. Alors premier ouvrage de cette collection, oui, consacré, oui, à je le prononce pas très bien, Takashi Meijin.
Oui.
C'est ça.
C'est ça.
Qui est une des personnes emblématiques dans l'histoire du jeu vidéo, mais plutôt au Japon. C'est vrai que moi je ne le connaissais pas. Alors est-ce que c'est une tare, j'en sais rien. En tout cas, je me suis un petit peu renseigné autour de moi. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît ce personnage. Pourtant, là-bas au Japon, c'est un personnage emblématique et il a même été le héros d'un jeu vidéo.
Exactement. Donc tu vois ce que tu me dis, en fait, ça me rassure quelque part. En même temps, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais les gars, vous êtes fous, pourquoi vous n'avez pas commencé par Miyamoto? Et nous, on leur a répondu, bon, déjà, Miyamoto, pour faire une biographie, faudrait l'avoir rencontré, quoi. Donc, effectivement, nous, on l'a déjà rencontré, mais pas pour lui parler de sa vie. Donc, si c'est pour repomper des choses qu'on trouve, effectivement, sur Wikipédia, c'est pas la peine. Nous, on a l'envie de faire les choses bien, de faire une biographie qui soit vraiment officielle, quelque chose qui soit complet. Et quand tu me dis effectivement que tu connais pas du tout Takashi Meijin et ton entourage non plus, à la limite c'est normal, mais c'est très bien, c'est rassurant, ça prouve effectivement que notre démarche elle est bonne. Dans le sens où, quand on se disait que les gens ne connaissent toujours que Miyamoto et Kojima, eh ben ça prouve que c'est un peu vrai, puisque personne ne connaît Takashi Meijin, alors qu'il mérite d'être connu, et qu'il est connu dans certaines zones du globe. Donc voilà, nous notre but c'est de faire découvrir des gens qui le valent, qui méritent d'être connus, et par le biais de ses biographies. Donc ça, oui, parle pas forcément aux gens, donc c'est un risque qu'on prend évidemment. Mais voilà, nous on veut faire des choses qui soient risquées, mais qui au moins aient un intérêt. Si c'est pour ressortir toujours les mêmes personnes, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Donc voilà, Takashi Meijin, c'est un choix difficile parce que c'est une personnalité qui est chez nous méconnue, mais que les joueurs connaissent peut-être indirectement pour avoir joué à la série donc Adventure Island. Mm-hmm. C'est donc ça à mon avis que tu voulais tu voulais en venir, parce qu'effectivement le petit personnage du Adventure Island, un petit jeu qui a commencé sur Famicom, enfin en tout cas Adventure Island, c'est un petit jeu 8 bits où on contrôle un petit homme des cavernes, on va dire, et qui monte sur un skateboard pour attraper des fruits. Enfin c'est un petit jeu de plateforme tout à fait classique, mais qui a bien marqué son époque, R 8 bits 16 bits. Et en fait, ce petit personnage n'est pas, disons, un inconnu au Japon. C'est une véritable star du jeu vidéo. Voilà.
D'accord. Et il a été inspiré par Takashi Meijin. Alors,
exactement.
J'aurais voulu que tu nous en dises plus sur le personnage, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire ou ne pas dire parce qu'on ne va pas, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais spoiler, l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut dire malgré tout pour que les gens le connaissent un petit peu mieux? Moi, j'ai commencé à lire le livre. Je le dis, je l'ai pas terminé encore. C'est passionnant d'entrée de jeu. C'est un gars qui arrive de nulle part, qui vendait des fruits et légumes, si j'ai bien compris.
Exactement,
et qui se retrouve propulsé presque de manière assez insouciante dans une espèce de destinée vidéoludique, en travaillant notamment pour Hudson.
Effectivement, c'est que Takashi Meijin, c'est le destin incroyable de quelqu'un effectivement qui sort de totalement nulle part. Donc c'est l'ascension fulgurante en fait d'un inconnu jusque sous les projecteurs, puisqu'il est devenu même acteur de cinéma. Il a sorti des albums où il chantait. Donc c'est ce destin fabuleux en fait qu'il relate, puisque c'est une autobiographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Takashi Meijin, raconté par Takashi Meijin. Donc ce garçon effectivement a commencé comme vendeur de supermarché au rayon fruits et légumes dans un bled au nord du Japon.
C'est une véritable success story. C'est vraiment
exactement
ça.
Et ce gars-là, donc au tout début des années 80, était passionné d'informatique comme beaucoup de Japonais. C'était le début des micro-ordinateurs et des premiers ordinateurs personnels. Donc, et il s'est passionné pour ce monde de l'informatique. Et il a donc postulé dans une boîte qui s'appelait Hudson, que beaucoup de tes auditeurs doivent certainement connaître.
Oui, c'est la marque à la petite abeille jaune.
Exactement, ouais. Voilà. Donc à qui l'on doit aujourd'hui les Bomberman et aussi la PC Engine, puisqu'on parle beaucoup de PC Engine dans ce bouquin. Il a donc postulé chez Hudson et en quelques mois, il s'est retrouvé de simple représentant d'Hudson dans les boutiques star de la d'Hudson et star
c'est devenu la mascotte de la firme.
Exactement,
on peut le voir comme ça.
Exactement, la mascotte de la firme, ouais.
Et c'est vrai qu'il a un capital sympathie énorme, ce bonhomme. On le voit en photo tout au long du bouquin. Il rayonne, hein, c'est quelqu'un d'assez solaire. Moi, je le définirais comme ça. Je pense que tu l'as rencontré.
Oui, bien sûr, on l'a rencontré. Et puis il y a même une interview dans le dernier Pix & Love où il complète 2-3 choses sur sa biographie pour la présenter, du moins. Mmh. Donc oui, bien sûr, on l'a rencontré. C'est quelqu'un de très humble, vraiment qui a un capital sympathie, effectivement, comme tu l'as dit, extrêmement fort.
Concernant Takashi Meijin, on va peut-être pas tout dire. Qu'est-ce qui, en quelques mots, qu'est-ce qui est le plus emblématique autour de ce personnage? Il y a une histoire de Seven Shot.
Ouais, c'est le 16 Shot.
16
exactement.
Shot, ok.
Bah, disons qu'à l'époque, au Japon, il y a eu une folie des Meijin. Enfin, Meijin, ça veut dire Game Master en anglais.
D'accord.
Et c'est-à-dire, c'était les sociétés de jeux vidéo, pour vendre leurs jeux, ont fait des starifications d'employés qui étaient censés être des bêtes en jeux vidéo. Or, la vérité, c'est qu'il n'y a que Takashi Meijin qui a marqué l'histoire du jeu vidéo au Japon. Parce que non seulement c'était un excellent joueur, et qu'en shoot 'em up, il était imbattable à cette époque, et auprès des enfants, puisqu'à cette époque, le jeu vidéo, c'était vraiment un domaine réservé aux enfants, il avait ce qu'on appelait une technique spéciale, et qui impressionnait tous les gosses de la génération Famicom, qui avait 8, 10, 12 ans, et qui était la suivante, c'est qu'il arrivait pendant 10 minutes, pendant toute la partie, il appuyait 16 fois sur le bouton de la manette. Donc en fait, il tirait à une vitesse folle dans les shoots 'em up, et c'est ce qui le rendait imbattable, il faisait des scores absolument hallucinants. Donc voilà, il appuyait 16 fois sur le bouton de sa manette, et ça a tellement marqué les enfants à cette époque. Il y a même des mangas où tu imagines, hein, les mangas au Japon, les mangas, c'est toujours, ça amplifie toujours la réalité, où il y a l'histoire de Takashi Meijin raconte des duels de jeux vidéo, donc dans ces fameux mangas, où tu le vois faire sa technique spéciale, 16 pressions à la seconde, et puis ça déclenche des réactions atomiques, enfin bref, t'imagines les mangas. Donc c'était sa technique spéciale, sur ce fameux 16 shot qui a marqué les enfants, et qui l'a rendu un petit peu inégalé, alors que
technique,
les autres Meijin, c'était peut-être des bons joueurs, mais ils avaient pas le même capital sympathie, ils avaient pas cette fameuse technique spéciale. Donc c'était un petit peu un héros, voilà, un dieu du jeu vidéo pour les gosses de cette époque, et c'est ça qui a marqué l'industrie japonaise du jeu vidéo à cette époque.
Et c'est une technique qui est expliquée dans le bouquin. Moi, ce qui m'impressionne quand dans ce livre, c'est qu'à travers travers lui, c'est vraiment, on va dire, un pan de l'histoire du jeu vidéo au Japon qu'on découvre, et puis toute une culture vidéoludique qu'on n'a pas chez nous en France. Une telle success, déjà une telle success story, même si c'était pas du jeu vidéo, j'ai l'impression que chez nous ça pourrait pas forcément arriver.
Non.
Et puis cette starification dont tu parles, qui est faite là-bas, cet engouement pour cette culture vidéoludique qui est là-bas. Chez nous aussi, c'est très intéressant à travers Takahashi Meijin de découvrir tout ça. Moi, j'ai commencé à lire ce livre un petit peu comme quand, la comparaison est minable, mais comme quand je regarde un épisode de Tom Sawyer, le dessin animé aujourd'hui. On est scotché, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, le personnage est sympathique et on se laisse porter, guider, on a envie.
Faudra demander à ton psy, oui, c'est sûr.
Ouais, mais merci. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Donc ça sort. En tout cas, voilà, c'est ça, c'est cet état d'esprit où t'as l'impression que le ciel est toujours bleu et que tout va bien. J'ai l'impression que tout au long du livre, il n'y a pas vraiment de moment, certainement qu'il y a eu des moments difficiles dans sa vie, mais il y a un positivisme assez hallucinant.
Bah disons que c'est quelqu'un, c'est un japonais, c'est-à-dire que c'est quand il naît pour le travail, on va dire, et enfin ça se voit tout au début du bouquin où il passe ses journées comme tout bon japonais
dans son entreprise.
Ouais. Mais en fait l'un des intérêts du bouquin, c'est pas non seulement la vie de ce monsieur qui est de toute façon surprenante, c'est surtout une photographie passionnante de cette époque, l'époque Famicom, qui était une époque à part dans l'histoire du jeu vidéo et de la game culture au Japon, qui est quand même très différente de chez nous, et on y apprend effectivement de nombreuses choses qui sont malheureusement impensables chez nous. On a essayé aussi d'avoir les mêmes choses, ce qu'ils appelaient les caravanes, c'est-à-dire les gros camions qui sillonnaient le pays pour faire jouer les gosses. Ça a été le cas chez nous, on a eu ça aussi avec les camions Nintendo, le Super Tour en 92.
Oui, je m'en souviens, j'avais participé
à ça. Sega,
ouais, tout à fait.
Mais c'était pas du tout la même chose. On n'est pas du tout arrivé au même résultat, et les différences en fait, on les comprend très clairement en fait en lisant ce bouquin, pourquoi ça a marché au Japon ou pourquoi ça n'a pas marché chez nous. Voilà, il y a une approche de la game culture qui est différente, et on la comprend bien, je pense, en lisant le bouquin. C'est ça qui est, c'est un des intérêts du bouquin, c'est de voir comment les Japonais, eux, vivent le jeu vidéo par rapport à nous.
Alors, il faut savoir que cette autobiographie a donc été écrite forcément par Takahashi Meijin lui-même.
Oui.
Vous, en fait, Pix & Love, vous avez, pas simplement, parce que c'est pas simple, je pense, mais traduit, en fait, dans la langue de Molière, ses écrits, et vous avez donc édité ce livre dans cette collection. Comment ça s'est passé? C'est un petit peu comme ça?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin, il est sorti au Japon l'année dernière, par la société Enterbrain. Enterbrain, c'est l'éditeur de Famitsu, donc le plus gros magazine, en tout cas le plus gros tirage au monde du jeu vidéo, donc les gens, je pense, connaissent Famitsu. Donc c'est cet éditeur-là qui a publié cette autobiographie. Et puis ben nous, vu qu'on a un certain nombre de contacts au Japon aujourd'hui, et puis même on a fait une demande d'acquisition de droits, tout simplement, de publication. Donc on s'est rendu au Japon, on a rencontré l'éditeur, on a rencontré Takahashi Meijin, on s'est mis d'accord, et puis ben on a fait l'acquisition des droits. Et puis ben derrière, on a traduit et adapté le bouquin pour qu'il soit publiable en France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bouquin, on l'a quand même un petit peu amélioré, en tout cas au niveau physique.
C'est ce que j'allais dire.
Au Japon, il était en noir et blanc.
C'est là, et là il y a vraiment la touche Pix & Love.
Et nous, comme on sait que les Français, quand ils ouvrent un bouquin, ils voient que c'est en noir et blanc, ben ils adhèrent pas. Il y a ces petits côtés un petit peu culturels au Japon, ça les dérange pas d'avoir des centaines de pages avec des photos en noir et blanc. En France, nous, ça passe beaucoup moins bien. On connaît notre public, quand il y a plein de photos, si c'est pas en couleur, il nous accuse de vouloir jouer les radins.
En tout cas, là, on a un ouvrage magnifique, avec des illustrations superbes.
On a fait un effort, certain, de récupérer tous les documents en couleur, et ça n'a pas été une mince affaire, je vous le dis, pour proposer donc au public français quelque chose de plus sexy, on va dire.
Ouais. Ouais, et ça l'est, je confirme, c'est vraiment très très beau.
Merci.
On retrouve cette qualité qu'on connaît, hein, dans les ouvrages Pix & Love généralement.
Merci.
On peut peut-être parler des prochains volets. Je crois qu'il y en a un prévu, qui sera consacré à Michel Ancel. Donc là,
exactement, oui.
La démarche sera, à mon avis, très différente.
Bah écoute, là, elle sera effectivement très différente, puisque c'est un bouquin qui, évidemment, n'est jamais paru nulle part. Donc là, c'est un 100% original Pix & Love, donc qui a été rédigé par Daniel Igibia, que nos lecteurs connaissent déjà bien, pour avoir écrit La saga des jeux vidéo, un bouquin très apprécié.
Ouais, et qui est un spécialiste de l'autobiographie, je crois.
Exactement, ouais. Donc il en a déjà rédigé un certain nombre, que ce soit pour des groupes, téléphones ou même plus récemment Steve Jobs. Et donc Daniel Ishbia s'est rendu à Montpellier à plusieurs reprises pour rencontrer
Michel Ancel.
Et donc pendant des heures, ils ont discuté un petit peu de sa vie. Et puis le résultat de ces entrevues sera dans cette biographie officielle, avec un certain nombre de révélations sur les grands titres d'Ubisoft et puis de Michel Ancel, que ce soit Les Lapins Crétins, que ce soit Rayman, bien sûr, que ce soit Beyond Good and Evil et bien sûr le début de carrière. Enfin voilà, plein de révélations très sympas sur un créateur emblématique made in France.
Très bien. Et alors un autre ouvrage est en prévision. Il serait consacré à Gunpei Yokoi, que je ne connais pas du tout non plus. Alors là aussi, découverte pour nous en France?
Non, pas découverte.
C'est une vraie erreur de ma part.
Oui. Non, c'est quand même Gunpei Yokoi, évidemment. C'est pas non plus Michael Jordan ou Michael Jackson, on est d'accord. Mais ça reste quand même le créateur, l'inventeur de la Game Boy, des Game & Watch, du Virtual Boy, de Metroid. Ça reste le créateur aussi de Dr. Mario. Donc tu vois, c'est pas n'importe qui.
Bien, maintenant que tu me le dis, j'associe effectivement son nom notamment à Metroid Prime, effectivement. D'accord, ok.
Metroid Prime, il est
Metroid,
sorti.
Metroid, pardon, oui, je me mélange. Excuse-moi.
Je t'en prie.
Il va falloir que je révise.
Metroid Prime, c'est monsieur Tanabe qui est toujours chez Nintendo. Mais Metroid, en tout cas, le début de la série, c'était sous ses ordres. Et donc, c'est bien lui. Et il a créé, en fait, un grand. Si les lecteurs du livre, du tome 1 de l'histoire de Nintendo retrouveront une bonne partie des jouets qu'il a créés, puisqu'il est. Il est arrivé chez Nintendo bien avant l'arrivée des jeux vidéo. Donc il a créé, c'est lui qui a fait, on va dire, le succès du Nintendo à partir des années 70, quoi. Et c'est en grande partie grâce à lui.
Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est une adaptation en français d'une autobiographie sortie au Japon? Comment ça se passe?
Exactement. Là encore, c'est il y a une biographie qui est sortie il y a plus de 10 ans avant qu'il décède, malheureusement. Et on a fait l'acquisition des droits, là encore, par la même démarche. Et puis donc cet ouvrage sera complété, bien complété, parce qu'on a depuis le temps fait de nombreuses nouvelles recherches, on a recoupé d'anciennes interviews, et c'est un ouvrage qui est culte au Japon, qui coûte très cher aujourd'hui au Japon, puisqu'il est plus disponible, cette fameuse biographie, et elle est collector, et nous on a réussi à acquérir les droits, et avec une version bien complétée, avec des photos qu'on a récupérées directement auprès de sa femme et de son fils. Mmh. Donc vraiment du contenu 100% inédit pour Pixel Love en tout cas.
Très bien. Bah écoute, félicitations en tout cas pour cette nouvelle collection, ce premier ouvrage qui est remarquable. Enfin, moi je le trouve passionnant. J'invite bien entendu les auditeurs à en faire l'acquisition et à le lire. Vous pourrez donc avoir un petit complément aussi dans le Pixel Love numéro 12.
Tout à fait.
Voilà, avec l'interview donc de Takashi Meijin. Merci Florent d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions.
Y a pas de souci.
Pour acheter le bouquin, c'est simple, vous allez sur le site pixandlove.fr.
Édition pixandlove, oui, .fr.
Je te laisse peut-être le mot de la fin, t'as peut-être des choses à rajouter qu'on aurait oublié.
Écoute, non, je pense que Game Radio mérite tout le succès qu'on lui
merci.
Doit.
Et puis, c'est pas là que je voulais en venir. C'est pas là
Game
que
Radio continuera très longtemps, et puis voilà, on a besoin de cette visibilité, le jeu vidéo a besoin de cette visibilité, donc Game Radio a toute sa place, et on espère que continuera
merci.
Très longtemps.
Merci beaucoup,
à
Florent.
Bientôt.
Merci, à bientôt, ciao.
Salut, Gus.
Merci Florent, merci beaucoup. Alors, les grands noms du jeu vidéo, épisode 1, Takashi Meijin, autobiographie d'une idole du jeu vidéo au Japon, est donc disponible. Ne passez pas à côté, faites-vous plaisir. Si vous êtes déjà abonné à la plupart des ouvrages édités par Pixel 9, eh bien, il ne vous reste plus qu'à ajouter celui-ci à votre collection. Et puis, si vous ne connaissez pas les livres publiés par Pixel 9, eh bien, c'est une très bonne occasion pour vous y mettre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, plus exactement, avec une vraie équipe réunie autour de moi et beaucoup plus de sujets et de chroniques. En tout cas, c'est ce que nous espérons pouvoir vous proposer à l'avenir chaque semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout très très bon jeu. À très bientôt. Ciao.